Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Smerer.
Et 2h30 d'action jusqu'à 18h, on va essayer de faire de cet après-midi votre moment, une opportunité sur mesure grâce à nos experts et aux évolutions de marché. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez en direct sur BFM Business, Étienne Braque nous accompagne depuis la Tour Euronext. Bonjour Étienne, c'est la dernière séance du mois d'avril, cette dernière séance est pluvieuse à Paris.
En effet, c'est du rouge aujourd'hui et puis aussi en données mensuelles avec un CAC 40 qui abandonne 2% pour l'instant sur l'ensemble du mois d'avril. Du rouge également à Wall Street avec des résultats aujourd'hui sensiblement inférieurs aux attentes et puis des données macroéconomiques qui ne sont pas au rendez-vous, notamment aux États-Unis, que ce soit sur la confiance des consommateurs mais aussi au niveau des salaires.
Effectivement, et c'est ce que retiennent les marchés parce que du côté européen, pour le coup, on en parlera avec Frédéric Ducrozet, il sera avec nous dans quelques minutes. Du côté européen, là, on a de meilleures nouvelles, notamment l'inflation qui ralentit, l'inflation des services même commence à ralentir en zone euro. On en parlera donc dans quelques instants. Ça, c'est plutôt encourageant. C'est vrai que c'est la lessiveuse du côté des publications aujourd'hui. On voit vraiment rouge, et notamment sur Stellantis, lanterne rouge du CAC, moins 7%, qui entraîne avec elle Renault, en repli aussi de 5% parmi les autres replis. Alors, bien moindre le repli, mais c'est aussi un repli. Thalès a aussi publié. On est à moins 0,3%, par exemple, sur Thalès. Il y a peu de rescapés aujourd'hui sur cette séance. Air France KLM aussi, on n'en a pas beaucoup parlé encore. On va le faire, on va se rattraper dans un instant. Air France KLM aussi est sanctionné. Puis en Allemagne, Mercedes, Volkswagen, bref, très très peu de rescapés sur la séance du jour. En revanche, aux États-Unis, Eli Lilly qui relève encore ses prévisions, le titre gagne 6%. On est toujours dans les médicaments anti-obésité. On vous présentera dans quelques minutes des idées de valeur pour vos portefeuilles. On est les plus concrets et pratiques possibles. Valeur ajoutée avec les spécialistes de Moneta Asset Management, ce sera 16h10. Et puis ensuite, la data room aux alentours de 17h25. On est à vos côtés, bienvenue à tous, on joue dans votre camp.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Le présent est partout, Étienne Braque aussi, sur tous les ballons et les fronts de cette séance. Étienne, on est à l'image du mois d'avril, en repli aujourd'hui sur les marchés européens.
En repli, que ce soit en Europe mais aussi aux États-Unis, puisqu'au bout de 30 minutes de cotation, les trois indices américains perdent toujours du terrain, même s'ils tentent de réduire leurs pertes. Moins 0,15% pour le Nasdaq, idem pour l'indice S&P 500. Confiance des consommateurs, là, qui vient d'être publiée, bon, elle n'est pas très bonne. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour certains investisseurs. Hein. Bad news is good news. Confiance des consommateurs en avril au plus bas depuis juillet 2022. Mais dans le même temps, on a eu d'autres statistiques en début d'après-midi qui n'ont pas vraiment plu au marché, notamment en ce qui concerne l'inflation. Inflation salariale aux États-Unis. Souvenez-vous, au quatrième trimestre, elle était en hausse de 0,9%. Là, au premier trimestre, elle est en hausse de 1,2%, cette inflation salariale aux États-Unis, alors que le consensus s'attendait à 1%. Ça plante un petit peu le décor à la veille de la réunion de la Fed, en tout cas de la prise de parole de Jerome Powell, demain à 20h30 avec le communiqué à 20h. En attendant, vous avez l'obligataire qui grimpe un petit peu aux États-Unis, plus 4 points de base pour le 10 ans américain à 4,66. Le 2 ans, de son côté, retrouve la barre symbolique des 5%. Et puis, à noter que l'euro-dollar continue de patiner, même s'il arrive enfin, en tout cas à court terme, à s'accrocher à la barre des 1,07, 1,0714. Du côté de cette séance du jour, à noter Téléperformance qui perd 5% avant la publication de son chiffre d'affaires ce soir. Vous avez l'ensemble du secteur du luxe qui continue de peser sur la séance, comme hier, quelques prises de bénéfices, des habillages de portefeuille, et puis à l'inverse, certaines valeurs défensives sortent du lot, à l'image notamment de Sanofi qui gagne 1%. À noter les cours du pétrole qui perdent 1,5%. Le marché espère un cessez-le-feu au Moyen-Orient. On l'espère, bien sûr. Mais en tout cas, à noter que depuis 2-3 jours, vous avez des cours du pétrole qui reculent. $85 pour le Brent, alors qu'il était au-delà des $90 la semaine dernière. Le WTI, le baril américain, s'échange à $81. Il perd également un peu plus d'1%. À noter, hors CAC 40, Atos qui gagnait 20%, repère 12% aujourd'hui. Et puis SES dans les satellites perd 12% également après une publication inférieure aux attentes. À l'inverse, ça se passe très bien pour Vision Group, ex SES Massima Gottag, qui continue de nouer des partenariats avec Walmart. La valeur s'envole de plus de 15% et le titre se rapproche de ses records historiques à 154 euros.
Effectivement, et article à suivre d'ailleurs sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com, consacré effectivement à cette incroyable envolée aujourd'hui des SES Imagotag, Walmart qui va pouvoir entrer d'ailleurs au capital. Bon, les choses avancent effectivement et ce titre est plébiscité. Pierre Bouchny nous appelle depuis les bureaux de Kepler. Bonjour Pierre, ravi de vous retrouver. Quelle est, avec vos analyses chez Kepler, la valeur qui, à vos yeux, ressort de cette journée de publication avant demain, le 1er mai, qui sera un jour fermé à la Bourse de Paris?
Écoutez, je pense que c'est Stellantis, comme vous l'avez souligné, c'est la plus forte baisse du CAC aujourd'hui, avec donc un chiffre d'affaires en baisse de plus de 10% et surtout des volumes en baisse de 10%. Sur Stellantis, aujourd'hui, les intérêts des investisseurs se focalisent sur la capacité de Stellantis à maintenir, un pricing élevé et des volumes qui ne se dégradent pas par rapport au marché. Donc on est à moins de 10 en volume sur ce premier trimestre, c'est plus que ce que le marché anticipait. Par contre, on est toujours très bon en termes de prix. Donc, les questions qui ont été posées au management lors de la conférence call, c'était sa capacité à maintenir des prix élevés et de garder une dynamique de volume qui reste relativement raisonnable, mais ça vaut pour l'ensemble du marché, hein, puisqu'aujourd'hui sur le secteur automobile, il y a beaucoup de questions sur les prix. On sait d'ores et déjà que les prix baisseront sur les véhicules électriques, 5-10%, peut-être plus. Et le point d'interrogation aujourd'hui, c'est la tenue des prix sur les véhicules thermiques, qui représentent quand même encore une très grosse part des ventes des constructeurs. Nous, on pense que ça peut baisser de 2-3%, et c'est probablement une hypothèse basse. Impossible que les anticipations du marché se dégradent sur ce point-là au cours des prochains mois.
Et d'ailleurs, cette question des prix dans l'univers automobile, c'est une autre question sur les réseaux sociaux. Alors ça tombe bien, on va rebondir sur vos propos, Pierre. Question qu'on vous pose, à vous tous qui nous suivez, sur notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. À vos yeux, quel est le constructeur européen qui parviendra à le mieux préserver les prix de ses véhicules face notamment à la concurrence chinoise? Est-ce que ça pourrait être Mercedes, qui d'ailleurs a dit tout à l'heure dans un communiqué qu'ils ne comptaient pas baisser leurs prix, et au contraire tenir face à la guerre des prix? Est-ce que vous pensez que ce sera plutôt Stellantis qui parviendra à le mieux préserver?
Alors nous, on pense que c'est Stellantis qui est effectivement l'acteur qui devrait le mieux s'en sortir. La politique de Carlos Tavares a toujours été de dire qu'il s'engageait à baisser les coûts au rythme de l'évolution de ses volumes ou de ses prix. Et en la matière, il a jusqu'à maintenant un track record qui est impeccable. Donc je dirais qu'on peut continuer à lui faire confiance, mais ça sera le point, je dirais, de sur lequel le marché va se concentrer sur les prochaines semaines.
Alors on va voir si vous emportez la conviction aussi de nos auditeurs et téléspectateurs, parce que justement, Stellantis, pour l'instant, n'arrive qu'en deuxième position sur nos réseaux, pour ceux qui ont choisi de répondre à cette question qu'on pose. Derrière Mercedes, vous êtes 46% à estimer que Mercedes parviendra à préserver ses tarifs, seulement 29% Stellantis, et puis loin derrière, on trouve Volkswagen ou encore Renault qui arrive en queue, voilà, 7% seulement Renault. N'hésitez pas, vous tous, à continuer de voter, à nous apporter vos arguments aussi en commentaire. On rebondira aussi dessus tout à l'heure dans la famille BFM Bourse à partir de 16h30. Moins 7,5% Stellantis, est-ce que c'est une occasion d'achat, Pierre?
Excusez-moi.
Allô? Non, je vous en... Oui, 7,5%, la baisse de Stellantis, est-ce que c'est une occasion d'achat d'après vous?
Pour nous, oui. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez, le résultat de vos sondages, je pense que la perception, en fait, de la capacité à tenir les prix tient au positionnement des véhicules. Et je pense que vos auditeurs ont le sentiment que c'est peut-être plus facile sur le Lian que sur le mass market. Et c'est pas étonnant de voir du Stellantis ou Renault en bas de ce résultat.
Une autre valeur qu'on ne doit pas louper, Air France KLM aussi, qui aggrave ses pertes. Le titre Air France KLM perd 3%. Alors même question, est-ce que c'est un point d'entrée ou pour le coup toujours pas, Pierre?
Nous, on est à l'achat, toujours sur Air France. Alors, les pertes, c'est quelque chose qui est assez structurel sur le premier trimestre, plus c'est un point bas en termes de trafic, et notamment sur le trafic loisir. Donc, Air France KLM sera en profit sur l'ensemble de l'année, il n'y a pas de doute sur ce sujet. Les chiffres du premier trimestre étaient relativement en ligne avec ce qu'on pouvait attendre. Les capacités, le trafic ont cru de 5%, c'est à peu près qu'on attend sur l'ensemble de l'année. Le prix a monté de 1,5%, donc ça veut dire que sur des niveaux de prix qui étaient déjà très élevés, et en particulier sur le premier trimestre de l'année dernière, le groupe a été capable de tenir ses prix, donc ça fait plutôt une bonne nouvelle. Et la perte, elle vient pour l'essentiel d'une hausse assez sensible des salaires sur ce trimestre, plus de 12%. Le management a dit que pour très grande partie, c'était un élément non récurrent, puis il y a eu des primes qui ont été payées sur ce premier trimestre. Donc on pense que c'est un demi one-off, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y aura probablement des hausses de salaires assez importantes chez Air France, puisque le trafic reste bon, et notamment avec les Jeux Olympiques, il faudra sans doute faire des concessions en termes salariales. Donc ce chiffre de 30 à 40 millions de plus de pertes que ce qui était entendu par les investisseurs ne me semble pas significatif, et ça ne change pas en tout cas la donne sur les perspectives annuelles d'Air
France. Et justement, les Jeux Olympiques, opportunité ou pas pour Air France, dans la mesure où oui, plus de passagers, mais aussi peut-être des hausses de salaire avec cette pression sociale, effectivement, c'est une opportunité ou au contraire pour un groupe comme Air France KLM?
Il faut bien ramener les Jeux à ce qu'ils représentent. Hein. On parle de quelques semaines dans l'année. Alors c'est vrai qu'il y aura un momentum très favorable sur ces quelques semaines, mais sur une performance annuelle, c'est quand même d'un impact relativement limité. Le management a dit que c'était pour eux relativement neutre, parce qu'effectivement, ça va créer une demande. Ça devrait mieux remplir les avions. Il n'y aura pas de croissance de capacité significativement supérieure à ce que le groupe a aujourd'hui. Donc, il y aura sans doute des effets prix positifs, des effets de taux d'occupation positifs. Après, il y a aussi du négatif sur un certain nombre de passagers qui décaleront leur voyage. Donc, l'un dans l'autre, ça devrait être relativement neutre pour Air France KLM.
Étienne avec nous, il nous accompagne depuis la Tour Euronext. Étienne, on est toujours en repli à la Bourse de Paris et des publications, des annonces d'entreprises, on n'en manque pas cet après-midi.
Ah oui, notamment dans le secteur automobile. Hein. Vous parliez il y a un instant de Stellantis, mais à noter que du côté de Francfort, vous avez Volkswagen qui perd quasiment 4%. Vous avez Mercedes également qui plie un peu plus de 3%. Avec là, chez Mercedes, une rentabilité qui déçoit les attentes. Alors certes, le marché ne s'attendait pas à un premier trimestre record, mais vous avez quand même une marge opérationnelle pour Mercedes qui passe de 15% au premier trimestre 2023 à 9% le trimestre dernier. Et puis alors là, chez Volkswagen, vous avez des volumes qui sont en baisse, mais même dans le segment des voitures électriques. Donc là, ça y est, on rentre dans le dur. Le segment électrique qui était très bien margé, qui était en forte croissance, là, un petit peu comme chez Tesla, c'est plus difficile désormais de vendre des voitures électriques parce que ceux qui en voulaient en ont déjà et puis ceux qui n'en veulent pas n'ont toujours pas envie d'en acheter. Donc vous avez un groupe qui perd du terrain en bourse, hein, que ce soit pour Mercedes mais aussi pour son concurrent Volkswagen, avec des managements qui maintiennent leurs prévisions pour cette année comme pour Stellantis, mais visiblement le marché a encore du mal à y croire.
Et il semble que pour les vélos, la difficulté soit à peu près la même désormais que pour les véhicules électriques. Ceux qui en voulaient, ça y est, ils en ont là. On en voit beaucoup, des vélos dans les rues. Puis que là, on arrive sur un plafond, effectivement. Et bon, Étienne nous accompagne, la Tour Euronext en direct. Pierre Bouchny aussi en fil rouge. On vous retrouvera à la clôture des marchés à 17h35. Pierre, à tout à l'heure. Le CAC 40 est en repli de 0,4%. Et une idée de valeur en plus, tout de suite, si vous voulez compléter vos portefeuilles, c'est valeur ajoutée avec les experts de Moneta Asset Management. Grégoire Hudviller nous appelle. Bonjour Grégoire. Vous êtes à l'achat aujourd'hui, Grégoire, avec vos équipes sur le titre Alten. Alten qui a beaucoup baissé quand même la semaine dernière suite à sa publication du premier trimestre. Pour vous, ça y est, c'est le moment de revenir sur ce titre Alten.
Oui, pour nous, c'est pas un mauvais moment, puisque c'est vrai que la semaine dernière, le titre a beaucoup baissé. Ça continue un petit peu à glisser d'ailleurs actuellement. C'est vrai que le premier trimestre était un petit peu mou, environ 1% de croissance organique. Mais Alten, c'est un titre qui connaît toujours des périodes de faiblesse lorsque la macro ralentit, car c'est une activité qui est quand même assez sensible au cycle. Mais à contrario, on a aussi une société qui rebondit très fortement et très rapidement dès qu'on a des premiers signes de reprise économique qui surviennent. Nous, ce qu'on pense, c'est que les fondamentaux restent très bons. Alten, ça, c'est un très bel acteur de la R&D externalisée en Europe. Les besoins d'ingénieurs sont toujours croissants. Et Alten est au cœur de tous les enjeux d'innovation technologique ou liés à la transition énergétique dans plein de secteurs, que ce soit l'automobile, l'aéronautique, le nucléaire. Alten est aussi très bien positionné dans le secteur de la défense. Donc, vous l'aurez compris, on n'est pas du tout inquiet sur les fondamentaux d'Alten. Et pour nous, les petites périodes de coups de mou, comme on en connaît actuellement, ont toujours été des excellentes opportunités pour se repositionner sur la valeur.
Certes, mais d'autres sociétés de services ralentissent sans être autant sanctionnées en bourse qu'Alten. Comment est-ce qu'on explique qu'Alten ait davantage perdu que les autres la confiance des investisseurs ces derniers temps?
C'est vrai que c'est une bonne question, parce qu'Alten n'a pas vraiment à rougir. Ils ont eu une performance au T1 qui est pas honteuse. Je le disais, 1% de croissance organique. On compare un petit peu avec d'autres sociétés de services. On a Sopra Steria qui a fait quasiment zéro sur le trimestre. On a Capgemini qui a publié ce matin son premier trimestre qui ressort en décroissance de 3,5%. Mais c'est vrai qu'Alten est plus sanctionné que d'autres. Alors, d'où est-ce que ça vient? Bon, alors déjà, nous, on pense que c'est un peu exagéré. mais on a peut-être quand même un élément d'explication et c'est peut-être juste un sujet de communication finalement. Vous savez, le marché n'aime pas l'incertitude, n'aime pas le flou, et c'est d'autant plus important dans des périodes macro un peu incertaines comme on en connaît actuellement, de donner de la visibilité, de permettre au marché de se projeter au-delà des ralentissements temporaires qu'on peut connaître. C'est ce que fait très bien Capgemini, par exemple, hein, qui communique très bien avec le marché. Et dans le cas d'Alten, malgré un management qui est excellent, malgré un track record opérationnel qui est aussi très bon dans la durée, on trouve que le groupe pêche un petit peu sur ce point, sur la communication. Et par exemple, c'est assez étonnant, mais ils n'ont pas d'équipe de relations investisseurs, ce qui est assez rare pour une société de cette taille. Donc pour nous, ça explique que on pense que le marché va attendre d'avoir des éléments tangibles de reprise économique avant de revenir sur le titre. Et donc si on avait une suggestion pour la société, ça serait peut-être de recruter une équipe de relations investisseurs.
Merci beaucoup Grégoire Wiedwiller avec ses équipes chez Moneta Asset Management. Alten, valeur dans laquelle vous croyez. Alten, effectivement, alors que le CAC 40 est toujours en baisse de 0,4%, on est en baisse alors qu'on a une bonne nouvelle ici en Europe sur le front macroéconomique. L'inflation ralentit. On va en parler tout de suite. On va appeler notre économiste. C'est parti.
BFM Bourse, l'écho du monde.
L'inflation sous-jacente ralentit, l'inflation des services aussi ralentit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et pourtant, les taux obligataires se tendent un peu. Frédéric Ducrozet est avec nous, responsable de la recherche macroéconomique de Pictet Wealth Management. Bonjour Frédéric. On est ravi de vous retrouver. Oui, c'est une vraie bonne nouvelle aujourd'hui sur le front de l'inflation qui a été publiée tout à l'heure en zone euro pour le mois d'avril. Une vraie bonne nouvelle.
C'est surtout une bonne nouvelle qui s'ajoute aux bonnes nouvelles qu'on a depuis plusieurs mois en Europe, hein, et c'est là le contraste qui grandit avec les États-Unis. Pour aller directement à la conclusion, le marché réagit aujourd'hui aux chiffres américains beaucoup plus qu'aux chiffres européens. Et puis c'est une bonne nouvelle aussi parce que la croissance repart. On a un peu moins d'inflation, un peu plus de croissance en Europe. C'est exactement ce qu'on veut. Donc de ce point de vue-là, l'image d'ensemble en zone euro en tout cas reste plutôt encourageante pour le reste de l'année. Ceci dit, c'est sticky là aussi un petit peu collant, un peu persistant à la hausse dans certains domaines. On peut prendre l'exemple des services qui reste toujours le secteur le plus intensif en main-d'œuvre et le plus important pour les banques centrales pour juger de la trajectoire des prix à l'avenir. Et en France en particulier, ça reste quand même stable autour de 3%. Là aussi, c'est pas 4-5%, c'est pas en train de réaccélérer, mais ça ne baisse plus. Donc, je dirais que c'est une bonne nouvelle, mais qu'il faut prendre dans son ensemble, dans un contexte qui est peut-être qui se complique peut-être un petit peu à la marge en Europe également.
Donc, à vos yeux, certes, le chiffre comme ça en façade s'améliore, mais pas de quoi imaginer un cycle de baisse de taux. Alors, peut-être une première baisse de taux en juin, d'accord, mais pas forcément un cycle de baisse de taux continu à chaque réunion dès le mois de juin. On pourrait avoir juste une baisse de taux isolée au mois de juin, puis ensuite attendre un petit peu avant de voir d'autres baisses de taux.
Je pense qu'il y en aura d'autres. Encore une fois, il faut prendre ces nouvelles dans leur ensemble. Pour aller encore un petit peu dans le détail, il y avait la période de Pâques qui était décalée, les périodes de soldes. Il y a plein de choses qui ajoutent du bruit à l'inflation. La tendance, clairement, elle est quand même à la baisse. C'est lent, c'est frustrant, c'est parfois ça apporte des petits rebonds. On peut penser à l'Allemagne, l'Espagne, qui ont par exemple supprimé des mesures d'aide aux ménages. Et dans ces pays-là, on voit un léger rebond de l'inflation énergétique, des prix du gaz, etc. Ça va continuer, on va avoir du bruit. Christine Lagarde nous avait d'ailleurs prévenu en ce sens. Ne nous emballons pas et gardons cette vision de long terme. La BCE, je pense, va baisser non seulement les taux en juin, mais au-delà, ne veut pas s'engager sur une baisse de taux qui serait un seul geste unique, isolé. Je pense qu'il lui faut suffisamment de confiance pour s'engager dans un cycle de baisse de taux. Après, on peut discuter, juillet, peut-être qu'elle peut faire une pause, se donner du temps jusqu'à septembre, baisser les taux tous les 3 mois plutôt que tous les 6 semaines. Oui, c'est possible. Et puis la Fed, bien sûr, vient aussi dans l'équation. Mais vraiment, je pense que dans les deux cas, d'ailleurs, dans des cas de figure complètement différents aux États-Unis et en Europe, après le traumatisme de cette crise d'inflation qu'on a eue depuis 2-3 ans, aucune banque centrale va s'engager sur une baisse de taux qui serait un geste isolé. Il faut vraiment qu'elles aient confiance suffisamment pour s'engager sur plusieurs baisses de taux. Et puis je pense, dans le cas de la Banque Centrale Européenne, pour revenir à un niveau plus neutre.
Et du côté de la Fed, on a un coût de l'emploi qui a été publié tout à l'heure qui repart à la hausse assez nettement au premier trimestre. On a aussi des chiffres d'immobilier, d'inflation immobilière qui accélèrent à nouveau. Et est-ce que vous croyez, franchement hein, Frédéric, est-ce que vous croyez de moins en moins à une baisse de taux cette année de la part de la Réserve fédérale américaine? Est-ce que vous reportez à 2025, comme ça peut-être même pas encore explicitement, mais en votre fort intérieur, l'hypothèse d'une première baisse de taux?
C'est un risque qu'on ne peut exclure, c'est certain. Moi, je pense qu'il y a là, une équation politique qui est compliquée aussi. On en a souvent parlé. La Fed aura du mal, je pense, à baisser les taux en septembre, deux mois avant une élection aussi importante. C'est un geste symbolique. Ce serait la première baisse de taux. Donc, il y a une dimension politique qui, normalement, ne joue absolument aucun rôle et qui va compliquer la tâche de la Fed. Sans ça, je dirais oui. Je suis toujours convaincu que la Fed, le prochain mouvement sera une baisse de taux, qu'elle peut et qu'elle doit les baisser avant la fin de l'année. Maintenant, toutes les données qu'on a, y compris sur l'inflation salariale aujourd'hui, elles accumulent là aussi des mauvaises nouvelles depuis le début de l'année qui tendent à suggérer que l'erreur finalement de la Fed, elle a été commise en décembre dernier. Ce pivot de Powell, qui à l'époque avait d'ailleurs des chiffres d'inflation qui décéléraient, donc c'est une erreur sur la base des données dont on disposait à l'époque, qui ont été révisées assez sensiblement à la hausse depuis. Toujours une équation un petit peu compliquée là aussi. Et je pense que la question pour Powell demain, c'est à quel point revenir en arrière, se déjuger. Non, je pense qu'une banque centrale, là aussi, a besoin de confiance, de dégager ce sentiment de confiance et de crédibilité, et qu'il ne va pas complètement se déjuger, plutôt dire que les taux vont devoir rester à même niveau pendant plus longtemps que prévu, en espérant que l'inflation parte à la baisse.
Merci beaucoup. Le 10 ans américain est à 4,67. Hein, il remonte aujourd'hui, 10 ans américain, après les chiffres donc du coût de l'emploi aux États-Unis, l'immobilier aussi, l'inflation immobilière, les maisons neuves notamment. Merci beaucoup Frédéric. Depuis les bureaux de Pictet Wealth Management, le CAC 40 toujours en repli pour finir ce mois d'avril, mois négatif d'ailleurs sur les marchés, sur le S&P aussi, on perd plus de 2% depuis le début du mois, ça continue, le S&P perd 0,2 et le CAC perd 0,5% aujourd'hui.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Les banques françaises sont dans le viseur du gouvernement au sujet de leur stratégie en faveur du climat. Jérémy Boudinier est avec nous pour la Française AM. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Les banques renaclent-elles à améliorer leurs pratiques en matière de défense, de protection de l'environnement? Est-ce qu'elles sont vraiment en retard par rapport à la feuille de route des accords de Paris?
En tout cas, elles sont vraiment pas en avance. D'ailleurs, la Banque Centrale Européenne le souligne. 90% des banques de la zone euro ne sont pas du tout en alignement avec les accords de Paris. Pour rappel, les accords de Paris, c'est qu'il faut diminuer les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre de plus de 40% en 2030. Clairement, on n'y est pas. Et les banques ont un rôle central à jouer là-dedans, parce que ce sont les courroies de transmission de l'économie réelle. Le problème, c'est qu'il y a une énorme inertie dans leur bilan. Les bilans des banques françaises, par exemple, c'est entre 800 milliards et 2500 milliards chacune pour les banques françaises. Donc forcément, c'est compliqué de faire bouger tout ça parce qu'on est dans un système, en plus de banques universelles, des banques qui ont des activités de banques de détail en France, à l'international, de banques d'affaires, de banques d'investissement, d'assurance, de gestion d'actifs. Bref, l'équation est extrêmement complexe, mais clairement, le compte n'y est pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de progrès à faire.
Et il y a des indicateurs suffisamment fiables aujourd'hui qui permettent de mesurer le sérieux des banques, de mesurer à quel point telle ou telle banque fait plutôt du greenwashing ou au contraire s'engage sérieusement?
C'est encore assez compliqué. Il y a beaucoup trop de flou et en fait on fait face à un paradoxe, c'est qu'on a à la fois trop et trop peu d'informations. On se retrouve noyé de reporting extra-financier, de communication et en même temps on a des engagements plus ou moins flous. Par exemple, il y en a un qui est très souvent utilisé, c'est le fameux net zéro 2050. C'est-à-dire que les banques visent la neutralité carbone en 2050. Or, elles le disent à peu près toutes, il n'y a pas toujours grand-chose derrière. Si je prends par exemple les banques canadiennes, elles n'ont jamais autant financé les sables bitumineux. Donc c'est de l'extraction pétrolière extrêmement polluante. Et malgré tout, elles nous regardent dans les yeux et nous disent « Non, non, il n'y a pas de problème, on y sera ». Donc aujourd'hui, c'est problématique. Les méthodologies, elles sont vraiment juste balbutiante, on a un empilement de textes, mais quand même, il y a un petit peu de progrès. On commence à avoir des méthodologies, des cadres d'analyse robustes, mais aujourd'hui, les indicateurs sont extrêmement imparfaits. Et alors, parfois, on entend un nouveau texte ou un nouveau ratio qui apparaît. Par exemple, la BCE, maintenant, oblige les banques à publier un Green Asset Ratio, c'est-à-dire, tout simplement, les actifs qui sont alignés avec la taxonomie. Le problème, c'est que la base de calcul, elle est d'ores et déjà discutable, pour pas dire complètement foireuse, puisque si on prend l'exemple de BNP Paribas, il y a 50% de leur base d'actifs qui est exclue. Donc on a déjà des chiffres qui se retrouvent, qui sont pas vraiment comparables, pas vraiment standardisés. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'indicateur fiable qui permette de hiérarchiser tout ça.
Et est-ce qu'une banque qui dispose de plans crédibles ambitieux en matière de stratégie climat en fait déjà ou peut en faire un atout de performance boursière en termes de performance à venir en bourse? Est-ce qu'une banque à l'avant-garde sur ces questions aura forcément plus de potentiel en bourse ou finalement les deux points sont décorrélés?
Alors ils commencent à se corréler et ils vont être corrélés de plus en plus. Le premier élément, eh bien, c'est que c'est la menace du bâton, tout simplement. Aujourd'hui, les banques sont un secteur extrêmement régulé et la Banque Centrale Européenne, par exemple, pour les banques de la zone euro, met très clairement la pression et elle va taper au portefeuille. Ce qu'elle dit aux banques, c'est si jamais vous ne mettez pas un petit peu les bouchées doubles, eh bien, on va vous demander de détenir davantage de fonds propres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire qu'il y a moins de résultats nets à distribuer aux actionnaires sous la forme de dividendes ou de rachats d'actions, et voire même, si les banques continuent à renacler, eh bien, dans ce cas, on met des amendes. Donc, très clairement, la pression augmente. Deuxième argument, c'est tout simplement la pression sur les bilans. Aujourd'hui, on est dans un environnement où il y a de plus en plus de risques extrêmes climatiques et forcément, ça impacte les économies locales. Donc les banques, là-dessus, ont quelque chose à jouer. Autre élément, et je finis avec ça, c'est qu'au-delà de la taxonomie, il y a aussi la question du fait que même nous, en tant qu'investisseurs, on nous met de plus en plus la pression. Donc nous-mêmes, on est obligés de sélectionner de plus en plus fortement là-dessus.
Mais ce qu'on se raconte, est-ce que c'est pas ça qui va tuer l'attractivité européenne ? Parce que c'est vrai, menace d'amende sur les banques européennes, très bien, mais pendant ce temps, les banques américaines se posent éventuellement moins de questions. Nos banques européennes achètent moins de valeurs pétrolières, par exemple, que les banques américaines. Et on voit le résultat aujourd'hui, Total Energy qui nous dit, mon capital, il s'américanise, il y a de moins en moins européens dans mon capital. Et donc, je vais peut-être aller à Wall Street plutôt que rester à Paris. Enfin, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas là le côté un peu contre-productif, le retour de flamme qui est aussi parallèlement en train de nous apparaître là en ce moment ?
Ah ben, tout à fait. Et les banques, en plus, restent ancrées dans leur économie et dans l'environnement politique et réglementaire qui est leur. Donc forcément, elles sont aussi le reflet des investissements là-dessus. Heureusement, on va dire, les banques européennes notamment, elles ont quand même un atout à jouer. D'ailleurs, c'est ce que vous soulignez dans l'intervention précédente, c'est que aujourd'hui, on est dans un environnement de taux qui est plus favorable. Mmh. Donc, heureusement, les banques respirent en termes de rentabilité et elles viennent avec des socles de solvabilité et de qualité d'actifs qui sont bons. Donc, elles ont quand même leur carte à jouer dans l'environnement boursier. C'est pas ce qu'on appellerait un value trap.
Il y a deux banques en Europe que vous avez identifiées qui vous semblent vertueuses pour s'engager et parvenir à respecter les accords de Paris, par exemple. Deux banques particulièrement à l'avant-garde, en l'occurrence.
Il y a, en effet, plusieurs banques sont à l'avant-garde. Alors, par contre, c'est vrai qu'elles sont jamais parfaites. C'est-à-dire qu'encore une fois, elles font des choses bien, il y a des choses qui sont encore moins bien. Alors, il y en a une qui est en plein cœur de l'actualité, c'est la banque espagnole BBVA, qui est la deuxième banque espagnole. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que là, aujourd'hui, elle annonce une OPA sur la quatrième banque espagnole, Banco de Sabadell. Alors, pour le moment, on n'a pas encore beaucoup de détails dessus, mais c'est une banque qui est intéressante parce que non seulement elle est ancrée dans son territoire local, mais elle est aussi très présente en Amérique latine et dans d'autres territoires émergents. Donc, des territoires à marge élevée, mais aussi là où il y a des stratégies climatiques plus complexes à mettre en place. Et force est de constater qu'en dépit de cette complexité, aujourd'hui, elle est parmi les mieux disantes en termes de reporting extra-financier. Et en plus de ça, c'est une des rares banques qui s'engage à faire certifier ses comptes en termes de reporting extra-financier sur les émissions carbone.
Jérémy Boudinet, vous êtes responsable de la gestion crédit Investment Grade pour la française Asset Management. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Business. Dans un instant, on va se rebrancher à la séance du jour. Bien sûr, le CAC 40 est en petite baisse. Les valeurs qui se distinguent, oh, Stellantis. Lanterne rouge, -8,5. On accélère encore à la baisse sur Stellantis. On parlera du secteur automobile. C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. Ce sera dans un instant avec la famille qui va me rejoindre jusqu'à 17h. À tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
La famille, les équipes radio, télé, bien sûr, et les équipes web qui se réunissent chaque jour jusqu'à 17h. Sabrina Sadghi avec nous. Bonjour Sabrina.
Bonjour Guillaume.
Ravi de vous retrouver Sabrina.
Pareil.
Même si on termine ce mois d'avril pluvieux, encore sous la pluie sur les marchés.
On perd 2,30 là pour l'heure sur le mois d'avril. Ce serait la première baisse mensuelle depuis le mois d'octobre. Bon, on a le CAC qui est pris en étant entre de très bonnes statistiques en Europe qui crédibilisent donc la thèse d'une première baisse des taux en juin. Et à côté, on a Stellantis qui freine très nettement le CAC, qui perd 8% après des ventes décevantes aux États-Unis. Voilà, la trajectoire sur les taux, il y a vraiment une grosse interrogation, surtout à la veille de la Fed, surtout qu'il y a eu un indice de prix.
Oui.
qui fait mal. Donc il y a deux.
Dans l'immobilier notamment, les prix des maisons. Un plus haut depuis 2022 aux États-Unis. On a aussi le coût de l'emploi qui remonte nettement au premier trimestre et 10 ans américains qui réagit. On est à 4,70 quasiment là sur le 10 ans américain.
Et oui, donc deux trajectoires entre l'Europe qui va vers peut-être une première baisse des taux en juin. Et aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué, donc deux trajectoires qui font que le CAC est sous pression.
La divergence. Désynchronisation à venir peut-être de la BCE et de la Fed. On en parlait avec Frédéric Ducrozet dans l'Écho du Monde, c'était à 16h10. Si vous l'avez raté, replay sur notre site BFM Bourse et l'application BFM Business. Les perspectives en matière de taux après les chiffres du jour, ça ralentit l'inflation en Europe. En revanche, aux États-Unis, ça tente à réaccélérer. Stéphane Sonuta est avec nous. Bonjour Stéphane. Trader pour compte propre. Sur le CAC, on est en petite baisse, c'est vrai, là. On termine ce mois d'avril donc en repli à l'image de l'ensemble du mois. Pour la suite, comment est-ce que d'un point de vue technique, vous voyez les choses, Stéphane ?
Écoutez, malgré la baisse d'aujourd'hui, on peut dire quand même que la phase de correction technique c'est un petit peu ralenti hein, lorsqu'on a redébordé à la hausse les 8100 points, même si là on est repassé nettement en dessous. On est quand même piégé dans un couloir qui est relativement étroit, hein, ça fait aller un petit peu moins de 4% de range, au sens large entre 7900 et 8200 points, au sens un petit peu plus strict, on va dire entre 8150 en haut et 7950 points en bas. C'est vrai qu'on se tient quand même relativement bien par rapport au marché américain, puisque les marchés américains, dans cette phase de consolidation, ont perdu quasiment deux fois plus que nous. C'est sûr que les concepts monétaires jouent à plein en faveur de l'Europe, bien entendu. On a encore pas mal de statistiques d'ici la fin de semaine qui pourraient faire potentiellement bouger les lignes avec le FOMC demain et puis le NFP vendredi. Pour accélérer quand même la baisse, il faudrait passer en dessous des 7950 et surtout 7900 points. Alors là, on pourrait peut-être avoir un petit trou d'air quand même derrière, mais pour l'instant, c'est pas trop d'actualité. Et puis, la surprise serait un refranchissement à la hausse des 8150 points, auquel cas, on pourrait de nouveau viser hein, le haut de annuel vers 8200, 8250 points. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans un marché qui se stabilise après une phase de hausse qui a été quand même assez impressionnante en début d'année.
C'est vrai, et en même temps, la correction de ce mois d'avril, finalement, quand on y pense, elle reste assez limitée, parce que le marché corrige, les marchés corrigent, parce qu'effectivement, ils anticipent moins de baisse de taux que ce qu'on imaginait jusqu'ici. Bon, la correction, elle reste correcte, hein. Rien de très, très, très sévère non plus, et c'est peut-être rassurant. On en parlera avec nos experts encore jusqu'à 18h. Il y a d'ailleurs une valeur qu'il ne faudra pas rater tout à l'heure, c'est à la clôture de Wall Street. Amazon va annoncer ses résultats, l'une des sept magnifiques. Techniquement, vous le sentez bien, ce titre Amazon, pour la suite, Stéphane ?
Ben écoutez, on a eu un parcours assez formidable hein. Depuis 2023. On a gagné 130%. Depuis fin octobre 2023, on a gagné 60%. On est revenu chercher le sommet de 2021 vers $189 le 11 avril dernier. Et puis, on a eu une petite correction avec l'ensemble du marché de 12%. Et on a, ces derniers jours, repris quasiment 9%. Donc, je pense qu'on anticipe probablement peut-être des bons résultats. Alors, il va falloir convertir effectivement cette anticipation ce soir avec les résultats. Si les résultats sont vraiment très bons, eh bien, je pense que le sommet de 2021 à $189 sera menacé et qu'on pourra passer au-dessus. Hein, et là, c'est un no man's land encore haussier. Attention quand même, parce que on pourrait peut-être avoir aussi un petit ralentissement des ventes. Et là, si on passait en dessous des $175, ça ouvrirait peut-être une phase de correction un petit peu plus profonde que celle que l'on a eue de 12% ces 15 derniers jours, ou 3 dernières semaines plutôt, vers 160, 155.
D'accord.
Mais c'est vrai que c'est un titre qui reste assez étonnant.
Merci. On vous rappellera tout à l'heure, Stéphane, si vous le voulez bien, à la clôture des marchés, 17h35. Stéphane Sonuta, il dit oui. Pour ceux qui nous suivent à la radio, c'est avec BFM Business et aussi à la télé. On vous a vu dire oui, Stéphane. Effectivement. Donc, plaisir de vous retrouver. Ce sera dans un peu moins d'une heure tout à l'heure, depuis vos bureaux. Le CAC 40 est en petite baisse, puisqu'on évoquait Amazon. C'est aussi notre facteur X du jour, Amazon, puisque certaines des sept magnifiques ont annoncé le versement à venir d'un dividende. Pas Amazon, sauf que,
Sauf que...
Comment s'appelle-t-il ? Marcelo Lima sur X a publié ce post, une capture d'écran de Bloomberg, et Marcelo Lima a repéré que pour Bloomberg, il y aura un versement peut-être à venir de dividendes d'Amazon. Ce serait le 14 mai, c'est ce qui apparaît sur son écran Bloomberg. Ouais, le 14 mai, versement de dividendes d'Amazon. Bon, voilà.
Bah, ce sera un événement en soi, hein, si ouais. Amazon versait le premier dividende. Bah, surtout que c'est le dernier des Mohicans, enfin le dernier des GAFAM à ne pas verser de dividendes. On l'a vu, Meta qui a annoncé un premier dividende en février. Récemment, c'était Google, enfin Alphabet qui a annoncé le versement. Vincent, ok, c'est symbolique, mais au moins, ils vont verser un dividende. Microsoft, ça fait une vingtaine d'années. Et Apple et Nvidia, ça fait une dizaine d'années déjà qu'ils versent des dividendes. Donc, ce serait vraiment un gros événement à suivre. Et s'ils l'annoncent, bah, peut-être que ça va se solder par une forte hausse du titre, comme Meta et comme Alphabet.
À surveiller, effectivement, pour Alphabet, ça a été largement salué, à l'annonce du dividende, ouais. Avec aussi des rachats d'actions qu'il ne faut pas oublier. Alphabet s'était envolé sur l'annonce. Bah, on verra ce soir Amazon, donc la publication peut-être. On verra l'annonce d'un dividende aussi. Il y en a des publications à suivre et c'est aussi l'objet de notre question sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Dans le secteur automobile, plusieurs constructeurs annoncent leurs résultats. Et on vous demande sur notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi, bah lequel de ces constructeurs européens parviendra à préserver les tarifs de ses véhicules. Est-ce que ce sera Mercedes qui dit qu'ils ne veulent pas ne veut pas Mercedes baisser le prix de ses véhicules, ne veulent pas entrer dans cette guerre de prix. Donc, est-ce que Mercedes y parviendra ? Est-ce que ce sera plutôt, à vos yeux, Stellantis qui parviendra à préserver ses tarifs, plutôt Volkswagen ou plutôt Renault ? Cette question, vous êtes nombreux à y répondre. Dans un instant, on fera part des résultats. Pour vous, Sabrina, qui parviendra à préserver ?
J'ai vu trois fois. Bon.
C'était en face de vous dans le bon image.
Voilà, non, c'était en face de moi, c'était derrière vous, Guillaume.
Bon, alors, on le dit, nos auditeurs, ils votent Mercedes.
Voilà,
à 46%.
À 46%, ouais. Mais Stellantis et Renault, hein, les constructeurs français, hein, disent effectivement qu'ils ne veulent pas non plus s'engager forcément dans une guerre de prix. Le but, c'est de préserver leur rentabilité et ils espèrent la préserver avec les nouveaux lancements. On a Stellantis qui va en lancer 24 et Renault qui va en lancer une dizaine cette année.
Bah, Stellantis, il va falloir convaincre, hein, parce que le titre perd 8,5% quand même après la publication aujourd'hui.
Effectivement, mais bon,
c'est compliqué. Donc on ne dit pas que Stellantis va rester immune comme ça, non seulement en termes de prix, de tarifs, mais alors une question aussi sur les stocks, mais ils doivent lancer de nouveaux modèles dans les prochains mois. C'est peut-être juste creux de la vague, une parenthèse négative avant de mieux rebondir par la suite. Enfin, c'est l'espoir d'un certain nombre d'experts.
A contribué à 1,2 milliard, c'est ça, d'euros sur le chiffre d'affaires.
-8,5. Oui. Il achète Stellantis. Eric Blaine, tout à l'heure, était avec nous. Il y voit un point d'entrée en cette baisse du jour. Eric Blaine pour Swiss Life Banque Privée. C'était à 15h40 dans la Bourse Cash. Le replay est disponible si vous avez raté le direct. Replay sur notre application BFM Business, effectivement. Mais enfin, voilà, sur nos réseaux, c'est Mercedes qui arrive en tête. Donc à 46%, vous estimez que Mercedes est le constructeur européen qui parviendra le mieux à préserver ses prix. Devant Stellantis à 29%. Très loin derrière, vous avez voté Volkswagen ou encore Renault. Et puisqu'on est dans les publications, on va y rester, avec aussi cette déception Air France KLM. Le titre perd 3% supplémentaire. Air France KLM aggrave encore ses pertes, Sabrina.
Et oui, pour la troisième fois consécutive, Air France KLM déçoit et avec des résultats qui atterrissent sous les attentes. Du côté de la rentabilité, c'est pas forcément bon. Et du côté des pertes non plus, elles sont creusées et plus que prévues. Air France KLM a vu ses coûts pénalisés par le paiement exceptionnel de salaire chez KLM et des perturbations opérationnelles. Mais Air France KLM indique que le groupe a pris des mesures depuis le mois d'avril pour neutraliser donc ces perturbations. Mais tout n'est pas acheté dans cette publication puisque le groupe de transport aérien a publié des revenus un tout petit peu au-dessus des attentes.
Donc, tout n'est pas noir. Après ce premier trimestre en deçà des attentes, quelles sont les perspectives 2024, année des Jeux Olympiques en plus ?
Bien sûr, ils ont confirmé viser en 2024 des capacités. Donc, c'est le nombre de vols offerts en hausse de 5% sur un an. Le groupe table aussi sur un coût unitaire limité en hausse de 1 à 2% grâce notamment au gel des embauches qui a plu à Odo BHF, hein, qui estime que cette annonce sur les coûts a été jugée rassurante. Et elle témoigne surtout d'une accélération de la part d'Air France KLM sur le contrôle des coûts.
Et une saison estivale donc prometteuse pour le groupe avec les JO qui arrivent.
Oui, avec les JO qui arrivent, Air France KLM est l'une des compagnies aériennes avec EasyJet à profiter donc des JO. Ce sera plutôt sur les prix plutôt que sur les volumes.
Et tout à l'heure, les experts de Kepler, c'est Romain Bouchny, oui, qui était avec nous tout à l'heure en direct.
Sûrement.
Voilà, pour Kepler, Chevreux, à 16h. On l'interrogeait justement, est-ce que pour Air France KLM et JO sont une opportunité ? Pas forcément, parce qu'effectivement, la saison en termes de trafic s'annonce prometteuse. Oui. Mais en même temps, il y a ces pressions salariales, évidemment.
C'est ça.
Et autant les Jeux Olympiques vont passer, autant les salaires, eux, vont rester. Et donc, il nous disait, bah, attention quand même, sur Air France KLM, c'est pas forcément complètement une aubaine ni une opportunité que ces Jeux Olympiques, même si, bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour la France et l'échéance approche. On est à 86 jours maintenant, on compte, hein, 86 jours des Jeux Olympiques. Ce titre Air France KLM, vous y consacrez un article, hein, Sabrina.
Tout à fait.
Sur notre site BFM Bourse. Et les publications, alors Air France KLM, Thalès, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi une publication du jour, moins 0,1%. Il y a aussi Capgemini qui a publié, ouais. Capgemini perd aujourd'hui 2%. Et puis, dans quelques jours à venir, deux banques. Vendredi, Société Générale et Crédit Agricole vont annoncer leurs résultats. On va en parler. François Monnier nous rejoint. Il est le directeur de la rédaction d'Investir. C'est le bullshitomètre. Oui, chaque jour, un expert de marché vient nous dire ce qu'il pense vraiment, vraiment des tendances et des effets du moment sur les marchés. Bonjour François, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
On va parler des banques. Donc dans trois jours, ce sera vendredi, des publications de Société Générale et Crédit Agricole. On va en parler. Enfin, on va en parler. Ou pas. Depuis la crise Lehman, il faut quand même reconnaître que le secteur bancaire est beaucoup moins dans le viseur des investisseurs. Beaucoup d'experts nous disent bah, finalement, le secteur bancaire, il y pèse si peu qu'on peut, on peut se permettre de l'ignorer. Mais pour vous, François, tourner le dos aux banques, bah, c'est une mauvaise idée. C'est même bullshit. Vous foudroyez cette idée selon laquelle les banques en bourse, c'est has-been.
Absolument. Alors c'est vrai que quand on regarde sur le temps long et on regarde l'évolution de la bourse, l'évolution des valeurs bancaires depuis la faillite de Lehman, le match est plié puisque le CAC 40 pré-Lehman et à aujourd'hui, il a bondi de 90%. Et quand vous avez une hausse de 90% du CAC 40, vous avez une Société Générale qui a perdu 60%. Vous avez Crédit Agricole qui n'a rien fait donc depuis septembre 2008. Donc il faut vraiment être patient. Et vous avez BNP qui a progressé timidement de 8%. C'est un secteur qui est complètement sorti des radars des investisseurs parce que on a vu Lehman, on a montré que c'était très difficile d'avoir la visibilité sur les banques. On a eu également une réglementation extrêmement sévère, justement, parce qu'on veut des garanties pour éviter un risque systémique. Donc, il a fallu mettre ceinture et bretelles, et ça coûte très, très cher. Il a fallu consolider les bilans, renforcer. Et donc, ça veut dire qu'il y a moins de croissance bénéficiaire de la part de ces entreprises. Et il y avait parallèlement des problèmes qu'on a pu voir, c'est que d'un trimestre à l'autre, il y a beaucoup de volatilité dans la performance parce que une banque, ça aussi, il y a des relations d'affaires, fusion, acquisition. Vous avez la banque d'investissement, donc c'est aussi il y a une activité qui est relativement cyclique. Et donc finalement, vous avez des investisseurs qui ont boudé ce secteur bancaire et qui se sont dit, il y a mieux à faire dans d'autres secteurs dits value. Parce que quand vous achetez une banque, vous achetez des actifs qui sont pas très chers.
Ah oui.
Et dans la value, on a eu des investisseurs qui ont beaucoup aimé aller sur les matières premières, le pétrole. On a un Total Energy qui est au plus haut. On a aussi eu un regain d'intérêt pour le secteur automobile. Sauf que, quand on regarde concrètement, on peut se dire que la donne va changer. Pourquoi ça pourrait changer? D'abord, quand on regarde les niveaux de valorisation, on est toujours sur des titres qui valent pas cher, voire qui sont quasiment donnés.
Ça, c'est pas nouveau.
C'est pas nouveau. On a en moyenne sur le CAC 40 15 fois les bénéfices attendus pour 2024, donc PER de 15 fois. Et les banques, ça se paye deux fois moins cher. PER de 7 pour BNP, PER de 7 pour Crédit Agricole et PER de 6 pour Société Générale. Et vous avez des rendements qui sont bien sûr supérieurs à ce que vous pouvez avoir au sein du CAC 40. C'est pas nouveau. Vous avez à peu près 7% de rendement chez BNP, 7% chez Crédit Agricole et 3,5% chez Société Générale.
Ça non plus, c'est pas nouveau, François.
Ça, c'est pas nouveau. Donc, on pourrait se dire, finalement, pourquoi y aller? Sauf que quand vous regardez un petit peu les rapports de force au sein de la value, quand vous êtes gérant, vous dites, l'automobile, il y a maintenant une visibilité qui est peut-être moins bonne que dans le secteur de la banque. L'automobile, on a eu beaucoup d'attentes sur les voitures électriques. Là, on voit que les véhicules électriques, ça fait pchit. Hein. On a quand même une baisse assez forte chez Volkswagen. Chez Tesla, il n'y a plus de croissance. Chez Stellantis, on se pose des questions et vous avez vu la réaction du marché encore aujourd'hui.
Moins 8%,
c'est la plus forte baisse du CAC 40. Donc, on commence à se poser des questions sur un secteur qui, finalement, peut être disrupté. En tout cas, la visibilité, elle est moindre. Sur les matières premières, aller sur les matières premières où vous avez des valorisations qui sont faibles, certes, mais on parle quand même de ralentissement économique, un petit peu quand même aux États-Unis, un peu en Europe. On a une Chine qui a du mal à repartir. Donc, l'approche value sur cette thématique-là, elle est pas non plus évidente. Donc, finalement, les banques, dans un contexte où vous pourrez vous dire que les taux peuvent rester élevés plus longtemps que prévu, c'est ce qui semble se dessiner aux États-Unis. Et on sait que les banques, elles n'ont pas aimé les taux négatifs, les taux nuls pendant le X trimestre, voire X années. Là, ils ont un environnement qui est, j'allais dire, plutôt normal. L'inflation, elle n'est pas encore, c'est pas encore gagné. On a des signaux positifs en Europe, mais ça reste extrêmement fragile. Aux États-Unis, elle est toujours là. Elle semble quand même bien installée. Oui. Donc, l'environnement, le contexte est quand même beaucoup plus favorable. Et il n'est pas dit qu'on retourne à une inflation durablement sous les 2%. Donc, on peut se dire que aujourd'hui, elles ont les atouts. En tout cas, si ça ne marche pas cette année 2024 et 2025 sur les banques, ben, ça ne marchera plus jamais.
En bourse, alors voilà. Ça veut dire qu'en bourse, il ne faut jamais dire jamais, François.
Exactement. Et c'est ce qu'on voit sur le temps long. Par exemple, si on s'était dit, bah, finalement, Saint-Gobain, c'est une valeur endormie, une belle endormie. Elle a deux fois 100 ans d'existence. Il ne se passe plus rien. Et là, on a vu quand même que le titre avait quand même bien fonctionné depuis quelques mois. Plus, c'est plus 50% en 6 mois, ouais. Plus 100% en 5 ans. Donc, la valeur s'est véritablement réveillée. Il y a de la croissance bénéficiaire. Et maintenant, Saint-Gobain, c'est 50% sur 6 mois, quand le CAC a fait moins de 20% sur 6 mois.
Mais je vous surprends. Donc, à l'autre extrême, on pourrait prendre l'exemple et pour aller dans votre sens, hein, même, enfin, Microsoft. Il y a quelques années, Microsoft, on disait c'est has-been.
Absolument.
Aujourd'hui, c'est le carton total et c'est la plus grosse boîte boursière dans le
monde. C'est pour ça qu'il ne faut jamais dire jamais. Et quand on regarde encore une fois les valeurs qui ont marqué les actionnaires français, par exemple Eurotunnel, on pouvait se dire ça y est, c'est, l'histoire elle est finie, il y a trop de dettes, etc. Maintenant, Eurotunnel est devenu Getlink, il y a toujours le tunnel, mais maintenant la valeur, elle pèse 9 milliards d'euros en bourse. Donc le fait de dire il ne faut plus jamais aller sur un titre qui n'a pas fonctionné, ce n'est pas forcément la bonne approche. Ce qu'il faut, c'est se repencher sur ces valeurs et se dire est-ce qu'aujourd'hui il y a des opportunités, est-ce qu'aujourd'hui il y a un potentiel d'appréciation du titre. Et là on peut se dire que sur les banques, eh bien il n'y a pas forcément un alignement de planète, ça reste des actifs extrêmement risqués, mais elles peuvent tirer aujourd'hui, dans le contexte actuel, leur épingle du jeu.
François, vous êtes avec nous en famille, je vois Sabrina, je vous observe Sabrina,
ah oui.
Vous n'avez pas l'air complètement convaincue
non.
Par François.
Bah quand même François, en bourse et dans le secteur bancaire, il y a quand même des dossiers un peu désespérants.
Oui, bien sûr, il y a des valeurs qui on se dit, elles ont chuté et il y a des chances qu'elles ne rebondissent jamais. On le voit, ça peut être dans le secteur bancaire. On a vu qu'il y avait des acteurs qui étaient même fragiles, notamment aux États-Unis. On le voit aussi en France. Hein. Atos, vous le commentez régulièrement, ça semble être une situation désespérante et désespérée. Donc, on a vu Thomson Multimédia devenu Technicolor qui a fait pchit. Donc, il y a des cas où finalement il faut pas y aller. Alors, quand est-ce qu'il faut pas y aller? C'est lorsque on se dit d'abord il y a un problème de bilan. La société peut disparaître, ou quand il y a un problème de service qui finalement ne trouve pas preneur. Si vous n'avez pas de perspective de croissance durablement, c'est un peu le cas d'Atos aujourd'hui, on ne vend pas de croissance, donc à quoi ça sert d'investir dans cette société? Thomson Multimédia, lorsque le bilan est trop fragile. Donc là,
que vous dites, ça me rappelle BIC aussi. BIC, pareil, on lui voyait plus d'avenir. BIC, les stylos, maintenant tout le monde est sur sa tablette, machin, etc. Enfin voilà. Et puis aujourd'hui, BIC est en train de se réinventer, par exemple. Pareil, on le vend, on disait plus jamais BIC.
Oui, ça revient. Et BIC, la force de BIC par rapport à du Thomson Multimédia ou du Atos, c'est qu'ils ont un bilan extrêmement sain. Beaucoup de cash, donc éventuellement, ils peuvent patienter. Lorsqu'une société ne peut pas patienter, là, c'est extrêmement dangereux pour les actionnaires.
Et peut-être que ça a passé le réveil du secteur bancaire par des fusions, parce qu'on le voit en Espagne. Hein, là, il y a eu BBVA qui prend langue avec Sabadell, c'est ça?
Oui.
Pour éventuellement peut-être un rachat.
Oui, ça, ce serait le Graal s'il y avait des consolidations. Après, on voit quand même que le régulateur, il n'est pas très fan de ces opérations de rapprochement, parce que plus la banque est grosse, plus elle peut générer potentiellement un risque systémique. Donc, on voit quand même qu'il y a des freins en Europe.
Il y a eu une exception, c'est Crédit Suisse, mais bon, voilà.
Voilà, parce qu'il y avait un plan de sauvetage. Ouais. Il fallait trouver une solution.
Un mariage
extrêmement...
un peu forcé. Hein.
Oui. Voilà, c'est un mariage de raison, pas forcément d'amour. Après, on va voir ce que ça donne sur le long terme. Mais on voit qu'en tout cas, le régulateur, il n'est pas spécialement friand d'opérations à grande échelle, parce que il a peur justement d'un risque systémique. Mais ça devient problématique, puisque on voit que les banques américaines sont de plus en plus grosses par rapport à nos banques européennes, et en tout cas, ou de la zone euro. Donc il faudra trouver des solutions. Mais logiquement, ça pousse à ce qu'il y ait des rapprochements et ça pousse que peut-être que Société Générale finisse avec UniCredit ou avec BNP ou etc. Donc ça, il y aura des rapprochements.
Et en Espagne, on voit donc la deuxième banque espagnole, oui. BBVA, effectivement, s'approcher comme ça de la quatrième plus grosse. Voilà, cette opération, on va suivre tout ça, bien évidemment. Peut-être un début de mouvement en Europe, même si effectivement le régulateur lui n'aime pas ça, on va suivre ça. En tout cas, effectivement, donc votre argument, c'est de dire le secteur bancaire n'a pas dit son dernier mot parce que dans l'univers des values, les astres sont plus ou moins mieux alignés quand même sur le secteur bancaire que par exemple dans les values sur le secteur automobile. On voit aujourd'hui par exemple Stellantis qui a publié effectivement le titre perd 8,5%, les voitures électrique, c'est moins ça qu'avant. Mmh. Et du coup, ben voilà, l'investisseur qui a une stratégie value, il va de plus en plus comparer et la comparaison va de plus en plus favoriser le secteur bancaire. Voilà, c'est l'idée.
Absolument. Et quand vous avez un investisseur même qui est diversifié en disant, ben, j'ai une poche croissance, une poche défensive, une poche value, eh bien, et qu'il n'avait pas de banque, il peut se dire, ben, finalement, j'ai peut-être plus de visibilité dans ce type de secteur. Donc, dans ma poche value, ben, je vais augmenter un petit peu la part des banques et avoir un peu moins de matières premières ou prendre mes bénéfices sur le pétrole et sur l'automobile, bah là on voit quand même on va avoir des mois extrêmement compliqués.
Et dans deux jours, trois jours, on est mardi, dans trois jours, vendredi, on va enjamber le 1er mai, et vendredi, Crédit Agricole et Société Générale annonceront leurs résultats, tous les deux le même jour. La semaine dernière, c'était BNP Paribas, et ça avait été salué par le marché. François, vous restez avec nous ?
Avec plaisir.
Le club à suivre dans un instant, plaisir partagé. Sabrina Sadghi nous accompagnera peut-être demain,
pas demain.
1er mai. Bien sûr, les marchés seront fermés demain. On le rappelle, aujourd'hui c'est la dernière séance d'avril, elle est pluvieuse cette séance à l'image de l'ensemble du mois, pas que sur les marchés d'ailleurs, mais sur les marchés aussi. On perd 0,4% en ce moment sur le CAC. Bah, écoutez Sabrina, on se retrouve en fin de semaine.
Exactement.
Avec beaucoup de plaisir également.
Pareil.
Et vous pouvez aussi bien sûr lire les articles de Sabrina, Julien Marion, Jean-Louis Dalloro sur bfmbourse.com. Cet article notamment consacré alors justement à Stellantis, lanterne rouge aujourd'hui, on en parlera dans le club dans un instant. Stellantis pénalisé par des déstockages, l'Amérique du Nord aussi, les ventes déçoivent, le titre perd 8,5%, mais tout à l'heure, alors, les experts de Kepler et Eric Blaine, tous les deux, nous disaient être à l'achat sur Stellantis, la baisse du jour est un point d'entrée. Ils nous le disaient, si vous avez raté le direct, le replay est lui aussi disponible. On se retrouve dans, 1 minute 30. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.